Les rendez-vous, the meeting. Les rendez-vous, the meeting of the opera studio. Ontmoeten aan het opera studio. Les rendez-vous, the meeting.
Les rendez-vous,
l'appuntamento dell'opera studio.
Try to remember the kind of September when life was slow.
C'est pas bien ça.
Les lents et fous, les sans les roues, les.
C'est dans
le. Les lents des roues, le.
En espagnol.
De l'opéra.
Ah, pas bienvenue.
Studio.
The Opera Studio's Rendezvous.
Los Encuentros del Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Poznanie Opera Studio.
Merhaba, le rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Chers amis, auditrices et auditeurs des rendez-vous d'Opéra Studio, la bienvenue en ce jour un petit peu pluvieux, mais pluvieux en un seul mot, parce qu'il fait un petit peu gris dehors aujourd'hui, mais c'est pas grave, dans le studio de RDL 68, il fait beau, soleil, chaud, on est heureux, et j'accueille aujourd'hui Anna Escudero, qui est soprano à l'Opéra National du Rhin, à l'Opéra Studio de l'Opéra National du Rhin. Bonjour Anna.
Bonjour.
Et dans ce studio est présente également Annalisa Orlando, qui est une pianiste chef de chant, donc qui travaille au quotidien avec des chanteurs lyriques, dont Anna, et qui accompagnera tout à l'heure Anna dans un extrait du célèbre Air des Clochettes. Je ne vous en dis pas plus. Bonjour Annalisa.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, nous allons parler de toi, chère Anna, de ton parcours, de ta déjà carrière qui commence bien. Et malgré ton très jeune âge, aimer le talent n'attend pas le nombre des années. Et donc, ma première question, la voilà. Depuis quand fais-tu de la musique, chère Anna?
Alors, j'ai commencé à faire de la musique quand j'étais petite. C'est-à-dire, j'ai commencé les cours de chant quand j'avais à peu près 10 ans. Je pense que ma mère, elle en avait marre de m'entendre chanter partout dans la maison. Elle s'est dit qu'il fallait bien faire quelque chose.
Ah oui, d'accord. Bonne idée, finalement. Hein,
ouais.
Voilà. Et donc, tu as commencé à faire de la musique donc très jeune. Et est-ce que tu te souviens si un événement particulier t'a donné cette envie de chanter?
Alors, mon père jouait beaucoup la guitare et il chantait aussi, alors de manière amateur, pas professionnellement. Et donc, j'ai plein de souvenirs d'enfance de faire... En fait, on créait nos propres chansons avec ma sœur et avec lui.
D'accord.
Donc, on créait des chansons complètement loufoques avec des histoires, des, je sais pas, sur des animaux et tout ça. Et on chantait ces chansons ensemble. Je pense que ça a quand même bien... motivée à vouloir poursuivre ce chemin.
Oui, c'est bien, ça a donc développé ton esprit d'imagination, enfin, c'est-à-dire,
oui.
tu composais déjà à 11 ans, donc finalement, avec ton papa et ta sœur.
Complètement.
Mais c'est bien, si jamais tu trouves un petit enregistrement qui traîne, je serais très curieuse de l'entendre, et chers amis auditrices et auditeurs, si jamais je mets la main sur cet enregistrement, peut-être je vous le ferai passer par l'intermédiaire de notre Francis, n'est-ce pas? Toujours fidèle au poste. Alors, ton premier souvenir musical, du coup?
Bah, c'est lié à ça, je pense. Après, j'avais aussi... j'ai grandi donc avec ma mamie. Enfin, c'est-à-dire, je vivais chez ma mamie, en face de la mer à Montevideo, Uruguay, parce que je viens d'Uruguay. Et donc, c'était une très belle maison en face de la mer. Et puis, elle avait un salon, et là, un salon, où elle a une collection de disques, en fait, assez importante, surtout pour l'époque.
Oui.
Et donc, c'était de mettre un CD dans le lecteur CD et d'écouter ses albums en face de la mer.
Oui.
C'est un peu, voilà, ces souvenirs que je lis beaucoup à mes premières émotions, d'écouter la musique un peu.
D'accord, d'accord. Ça devait être juste fantastique d'écouter de la belle musique chez la mamie, face à la mer. Oh là là,
ouais.
C'est formidable. Et pour revenir à ton premier cours de chant, est-ce que tu te souviens comment il s'est passé?
Je ne me rappelle pas de mon premier cours de chant. Je me rappelle que ma prof me faisait un peu peur.
Ah bon? Ah ben, ça commençait mal.
Mais juste parce que j'étais vraiment petite, j'avais 10 ans et parfois elle me frayait un petit peu, au début surtout. Mais après, je me rappelle aussi, en fait, pour prendre ces cours de chant, je devais traverser toute la ville avec ma maman en bus. Donc c'était un peu une odyssée d'aller jusqu'au cours de chant. C'était loin, mais bon, une fois que j'étais là, j'étais très contente d'y être.
D'accord. Mais alors, elle te faisait peur, cette dame, mais pourquoi elle te faisait peur ? Parce qu'elle te demandait de faire des exercices que tu trouvais difficiles ou parce que tu avais l'impression qu'il fallait faire attention de chanter, à chanter comme elle voulait que tu chantes ? Enfin, d'un coup, est-ce que tu t'es pas dit, oh là là, mais chanter, ça devient sérieux ?
Je pense que oui, j'avais beaucoup de respect pour elle. En fait, c'est une chanteuse uruguayenne, une prof de chant uruguayenne et qui me crée du respect. Et du coup, j'étais là, toute petite, dans sa grande maison avec le piano à queue. Et je me disais, oh là là, qu'est-ce que je suis venue faire là ?
Ah oui, c'est ça. Bah, je te rappelle, c'est ta maman qui n'en pouvait plus de t'entendre
voilà,
chanter.
C'est ça.
C'était pour ça que tu étais là. Et en fait, elle te faisait chanter des comptines ou est-ce que tu commençais avec déjà des petits airs de... Des airs, comment on a les arias antiqués qu'on a.
Non, pas vraiment. Il y avait. Qu'est-ce qu'on faisait ? Je pense que je me rappelle de chanter la berceuse de Brahms, par exemple.
D'accord.
C'est drôle parce qu'on l'a chantée.
Oui, on l'a fait il
n'y
a pas
récemment,
longtemps. Oui, c'est vrai.
Donc il y avait un mélange un peu, oui, des pièces plus pour les enfants et d'autres du répertoire déjà un peu.
Ah, c'était intelligemment fait, en fait.
Ouais,
c'était bien, ça.
Oui,
ça
et puis elle me faisait aussi en même temps des cours de solfège.
Eh oui, parce voilà. Qu'effectivement, pour chanteur ou pour jouer du piano, chère Annalisa, il faut savoir lire les notes oui, et les rythmes. Oui, ça aide en effet. Alors, on va passer tout de suite au premier extrait musical que tu as choisi pour nous, Anna. C'est Joni Mitchell qui chante, le violon et le tambour, je fais la traduction. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette chanson et cette artiste ?
Oui, Joni Mitchell, c'est une de mes artistes préférées. Vraiment, j'adore ce qu'elle fait artistiquement. Cette chanson, elle me touche beaucoup parce qu'elle est faite a cappella, c'est-à-dire sans instrument. Et c'est toute la simplicité de sa voix et de son expression qui est là. Puis c'est hyper intéressant, cette chanson-là en particulier, parce que c'est... C'est un peu une chanson anti-guerre, donc c'est toujours très touchante de l'entendre, et je pense que c'est très pertinent de
oui, malheureusement.
D'écouter ce type de chanson aujourd'hui encore.
Oui, aujourd'hui c'est très pertinent. Nous écoutons Joni Mitchell.
And so once again, my dear Johnny, my dear friend. And so once again, you are fighting us all. And when I ask you why, you raise your sticks and cry, and I follow, my friend. How did you come to trade the fiddle for the drum? You say I have turned like the enemies you've earned, but I can remember all the good things you are. And so I ask you please, can I help you find the peace and the star? Oh, my friend, what time is this? To trade the handshake for the fist. And so once again, oh America, my friend. And so once again, you are fighting us all. And when we ask you why, you raise your sticks and cry, and we follow, my friend. How did you come to trade the fiddle for the drum? You say we have turned like the enemies you've earned. But we can remember all the good things you are. And so we ask you please, can we help you find the peace and the star? Oh, my friend, we have all come to fear the beating of your drum.
Magnifique moment suspendu que tu nous offres, chère Anna, par la voix de cette magnifique artiste, Joni Mitchell. Que dire de plus après avoir entendu ça?
Ça a une énorme puissance, hein.
Rien.
C'est entre la plainte et l'espoir. Ben moi, je trouve ça. En fait, c'est le pouvoir de l'expression de la voix comme ça au top.
Oui, c'est vrai parce que c'est d'une simplicité incroyable et c'est très très beau, effectivement très touchant. Le thème, évidemment, la paix, bien sûr que tout le monde espère la paix.
Oui.
Et donc, on espère que cette pensée ira où il faut pour que tout s'apaise dans le monde. Revenons sur Terre et je voudrais que tu nous dises un petit peu, que tu nous expliques un petit peu quel est le type de voix que tu as, toi, Anna.
Alors, je suis soprano, parmi les sopranos, qui est déjà la voix les plus aiguës des voix d'opéra, je suis celle qui va le plus aiguë. Donc, ce qu'on peut appeler une soprano, un soprano colorature ou un soprano léger, ou ça dépend un peu des différents noms. Donc voilà, c'est la soprano qui chante le plus aiguë, qui va casser les
verres de cristal.
Oui.
D'accord, très bien. Bon, il n'y a pas de verre en cristal, non. Francis, tout va bien, donc on risque rien, ça va. Alors, qu'es-tu venu chercher à l'Opéra Studio? D'ailleurs, comment c'est passé? Comment ça se fait que tu as eu envie de venir à l'Opéra Studio de l'Opéra National du Rhin? Et qu'est-ce qu'il a fallu que tu fasses pour arriver jusqu'à nous? Comment ça s'est passé? Est-ce que peux-tu nous raconter ton aventure avant d'arriver chez nous?
Alors, j'avais très envie de faire un opéra studio parce que c'est une très bonne manière donc, de faire un lien entre la fin des études et le début de la vie professionnelle. C'est vraiment un type de... C'est entre une formation et un travail, d'une certaine manière, même si on est certainement... C'est un travail, mais on est en même temps dans un cadre encore de formation. Donc, c'est vraiment parfait. Je sais que l'opéra studio de l'Opéra National du Rhin... Enfin, je savais avant de venir que ça avait un très bon... Enfin, c'était prestigieux, il y avait un très bon niveau, donc j'avais beaucoup d'espoir d'être prise et je m'étais bien préparée pour cette audition. J'avais choisi avec beaucoup de soin l'extrait de texte, le monologue qu'il fallait faire et puis je me sentis très bien pendant l'audition. Il y avait un truc qui... J'avais beaucoup de confiance dans ce que j'étais en train de faire et c'était réussi.
Mais oui, bravo. Oui, parce que beaucoup de candidatures chaque année à l'Opéra Studio. Et donc, effectivement, les candidatures sont envoyées on reçoit des liens vidéo, on sélectionne parce qu'il y a plus de 350 candidatures. Enfin, c'est énorme. Des chanteurs, des artistes qui viennent du monde entier qui se présentent. Et ensuite, on écoute certains chanteurs et chanteuses dont tu faisais partie. Et ensuite, on garde certains artistes. Et parfois, le choix est très difficile parce que sur ce grand nombre, eh bien, on garde quatre voix de femmes. Donc, c'est pas beaucoup.
Et puis, on doit bien chanter et aussi dire un texte, parler.
En français, il faut dire un texte. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que c'est très important, évidemment. C'est un vecteur très important de communication et d'interprétation aussi. Il faut que quand même le français soit que les personnes aient un bon niveau de français, au moins quand ils apprennent un texte par cœur en français. Tout à fait. Et donc cette année, donc, tu as participé à plusieurs projets. Est-ce que tu notes un changement par rapport à justement le moment où tu es entrée à l'Opéra Studio? Est-ce que tu as trouvé ce que tu étais venue chercher? Et est-ce que tu as une sensation d'expérience supplémentaire positive?
Oui, moi je pense que ça m'a fait énormément progresser. Je vois vraiment des grandes différences entre les débuts de l'année et maintenant. Ma voix s'est arrondie, comme tu l'as dit récemment, une fidèle du public de l'Opéra Studio.
Oui.
Au-delà de ça, je trouve que j'ai gagné beaucoup en plein d'aspects. En fait, le fait de pouvoir être tout le temps emmenée à devoir chanter devant un public, c'est un peu ce qu'on fait à l'Opéra Studio. En fait, on a tout le temps de concerts, tout le temps... Vraiment, il faut être très très. On a une vie musicale très très active Et ça, en fait, ça crée en fait une espèce de rythme où t'avances. Évidemment qu'on travaille pour, mais c'est un peu même sans le vouloir que ça. Les progrès se font naturellement. Et ça, c'est et en faisant. Et ça, c'est vraiment génial.
Oui. Par exemple, l'opéra volant de cette saison qui a circulé dans les trois villes de l'Opéra National du Rhin, c'est-à-dire Strasbourg, Colmar et Mulhouse, puis qui après est allé dans la région Grand Est. Tu tenais, je pense, un des rôles principaux. Enfin, tous les rôles étaient importants parce que vous étiez 5 chanteurs sur cette production et 3 comédiens et 2 pianistes. Enfin, c'était et puis
harpistes.
Une harpiste et 2 harpistes. Oui, c'est ça. Ça faisait beaucoup de monde, beaucoup de jeunesse, très talentueuse d'ailleurs. Tout le monde était formidable. Et donc, quelle a été cette expérience? Qu'as-tu tiré de cette expérience de cet opéra volant cette année?
C'était pour moi une expérience incroyable déjà parce que c'était un grand défi de faire de la comédie musicale. Donc,
oui.
Oui, on a fait Les Fantastiques, c'est Harvey Schmidt et Tom Jones. Donc, c'est une comédie musicale américaine dans laquelle on devait donc chanter, mais aussi jouer un rôle, c'est-à-dire il y avait des textes, donc parler, et il y avait aussi des petits pas de danse.
Aussi, oui, c'est vrai, on a oublié de mentionner le metteur en scène qui était la metteuse en scène Myriam Marzouki,
oui.
Et notre maître de ballet, enfin voilà,
oui.
Je ne sais pas, qui est Christine von Scheidt, que nous saluons, voilà, nous les saluons toutes les deux.
Et donc c'était un grand défi, mais qu'on a relevé avec beaucoup de plaisir, et puis qui, je pense, nous a fait vraiment, vraiment progresser énormément en tant qu'artiste. C'était une expérience géniale. Puis de voir aussi le parcours qu'on a fait. Et puis quand on a commencé à répéter la pièce jusqu'à la... On a fait combien? 22, 23, 24 présentations. À la 24, comment la pièce avait mûri, comment les personnages s'étaient développés. Donc c'était vraiment une expérience géniale.
Très bien. Mais nous qui étions dans la salle, on s'en est rendu compte aussi que vous étiez heureux sur le plateau. C'était vraiment formidable. Et à part Les Fantastiques, qui a été quand même un événement pour vous, les jeunes qui avaient participé à cette production, est-ce qu'il y a des compositeurs que tu aurais découvert cette saison, que tu ne connaissais pas, ou un répertoire que tu aurais découvert également?
Oui, alors il y en a eu beaucoup, beaucoup de nouveaux compositeurs, beaucoup de nouveaux répertoires, mais je garde un très très bon souvenir de la masterclass qu'on a fait en fait très récemment avec Anne Le Bozec, où on a travaillé sur de la mélodie française, et j'ai découvert donc la musique de Lélie Boulanger, et c'était une découverte juste incroyable. C'est une musique qui m'a touchée profondément et j'étais tellement heureuse de l'interpréter. J'espère que je vais pouvoir continuer à l'interpréter alors.
mais bien sûr, il n'y a pas de raison. Oui, c'est vrai que tout au long de la saison, des masterclass sont organisées, c'est-à-dire c'est un artiste invité qui vient pendant une semaine pour faire travailler, pour perfectionner, parce que les jeunes, quand les maîtres de stage arrivent, les jeunes, les pianistes connaissent parfaitement leur partition, les chanteurs connaissent parfaitement leur partition également, ils l'ont déjà travaillé, c'est préparé, et donc le maître de stage arrive pour donner la dimension finale et pour aider les jeunes à trouver une interprétation, enfin à sublimer un peu l'interprétation qui devine, surtout quand ils découvrent un compositeur. Et à la fin de ces séances de ces sessions de masterclass, il y a un concert, et c'est le concert Heure Lyrique qui a lieu le samedi matin, régulièrement à l'Opéra du Rhin. Très bien. Et donc, tu retiens cette expérience de comédie musicale et puis ce répertoire qui nouveau que tu as pu aborder lors de cette saison, qui n'est pas tout à fait fini encore.
Qui n'est pas fini, oui.
Tout à fait. Et nous allons écouter le deuxième extrait que tu as choisi pour nous. Alors, je vais te laisser le présenter parce que quand même, c'est... Bon, ce sont des compatriotes, alors
oui.
Je te laisse les présenter.
Alors, j'ai choisi une chanson de Fernando Cabrera et Eduardo Mateo, qui sont deux... On dit compositeur, auteur
oui.
En français, voilà. Mmh. C'est des compositeurs, chanteurs, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'ils interprètent leurs propres chansons. Hein.
Oui.
Comme Joni Mitchell, d'ailleurs. Je pense que c'est un type de forme d'art qui me plaît énormément. Et donc, c'est des chanteurs, compositeurs uruguayens et qui chantent ces chansons qui s'appellent Por Ejemplo, qui me plaît beaucoup, enfin parce que elle me apporte tout de suite, elle m'emmène tout de suite à l'Uruguay, au paysage, au petit instant, aux choses typiques qu'on peut faire là-bas, Et bon, je vous la laisse découvrir.
Merci Anna, nous écoutons. Des applaudissements pour ces deux interprètes, compositeurs, chanteurs uruguayens que tu as choisi de nous faire découvrir. Chère Anna, tu peux me donner leur nom à nouveau?
Alors, c'est Fernando Cabrera, grand interprète uruguayen qui est encore vivant, et Eduardo Mateo qui est décédé il y a quelques années déjà.
Ah, bon. Ouais, il nous parlait
mais grand,
de ce...
grand artiste uruguayen aussi.
Oui, cette chanson parlait de sable, de soleil, de souvenirs. Et c'est vrai qu'en écoutant cette musique, on est transporté dans ton joli pays.
Oui.
Ah oui, merci beaucoup. Tu es un petit peu nostalgique parfois quand tu es ici en Alsace. Tu penses
oui.
à ta mère.
Un petit peu, ouais. Mais bon, j'ai quand même. C'est très clair pour moi pourquoi je suis ici. Donc voilà.
Voilà, tu es là pour grandir.
Voilà.
Bon, bah c'est bien. Mais alors, tu grandis parce que tu travailles beaucoup, et donc ça te fait grandir, mais de temps en temps, est-ce que tu te détends quand même?
Oui, bien sûr. Alors,
qu'est-ce que tu fais, sans être indiscrète?
Alors, j'ai commencé à faire de la méditation récemment, de manière très régulière, c'est-à-dire tous les soirs, et franchement, ça a été un avant et un après... Je sais pas, je dors mieux, et puis je sais retrouver un peu cet état parfois à des moments de la journée où j'en ai besoin. Ouais, je recommande, alors c'est un truc qu'on fait pas trop, en Occident, et qui est quand même un grand outil de détente et de gestion des émotions, et voilà.
Très bien, méditation, parfait. Et à ton avis, si tu avais une jeune chanteuse ou un jeune chanteur qui viendrait te voir, quel conseil pourrais-tu leur donner?
Je leur dirais de... Je pense que j'aurais voulu leur dire quelque chose qu'on m'a pas dit, moi. C'est que le chemin... tous les chemins, le chemin sont OK. C'est-à-dire
oui.
que c'est pas parce qu'on n'a pas fait tel conservatoire ou parce qu'on n'a pas passé par tel qu'on ne va pas réussir à vivre de ce qu'on aime et à faire une belle carrière. Je pense qu'il n'y a pas de chemin
tout tracé, finalement.
Oui. Il faut un peu suivre aussi ces moments d'envie, traverser les moments des doutes aussi et voir après comment ça s'est construit, mais en ayant confiance.
C'est ça, la confiance. Tu as parfaitement raison. Donc, une des qualités requises pour être chanteur d'opéra, effectivement, ou artiste en général, c'est la confiance, même si un artiste est toujours en train de douter parce qu'il remet toujours en cause. Mais au plus profond de soi-même, c'est la confiance d'être à la bonne place, en fait. C'est ça.
Oui, après, c'est une chose que se construit aussi. Hein. Je pense que oui. ça vient avec le temps aussi. Mais oui, c'est quelque chose qu'il faut au moins nourrir à l'intérieur de soi.
Oui, c'est ça. Oui, il faut qu'il y ait une épaisseur. Et donc, parmi tous les compositeurs que tu connais maintenant, que tu as écouté chez ta mamie, que tu as découvert ici, l'Opéra Studio, est-ce que il t'apparaît plus clairement la liste des rôles que tu rêverais de chanter ?
Oui, bien sûr. Il y a un rôle que je rêve de chanter, que je me souhaite de le chanter et que je pense que je vais chanter à un moment donné de ma vie, c'est La Reine de la Nuit. Dans La Flûte Enchantée de Mozart, voilà, c'est un rôle qui a une puissance quand même c'est une femme très forte, même si c'est un peu la méchante dans l'histoire.
Oui.
Moi, je trouve qu'elle est quand même injustement traitée, la Reine de la Nuit.
Ah, voilà, très bien, voilà. Le côté militant de Anna qui se révèle.
Voilà. Mais autrement, c'est un rôle fantastique.
Oui, 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 bah c'est très riche. Mais souvent, les rôles de méchants ou de méchantes sont plus intéressants à défendre, quoi, et à interpréter, parce que c'est très riche, enfin, c'est tortueux.
Oui, c'est voilà. Fun.
C'est fun. Très bien, très bien. Très bien, c'est fun. Le rôle de la nuit, c'est fun. C'est la pensée du jour. Et donc, maintenant est venu le moment, un petit peu, peut-être un petit peu, voilà. Tu vas nous chanter un air, un extrait. L'extrait d'un air, je te laisse t'installer, chère Anna, accompagnée par Annalisa au piano, qui est également une artiste de l'Opéra Studio, de l'Opéra National du Rhin. Vous allez vous préparer toutes les deux pour nous chanter un extrait de l'air des clochettes de Lakmé, du compositeur Léo Delibes. C'est un air très célèbre. Alors, si ce nom ne vous dit rien, écoutez quand même, parce que les quelques notes que va vous chanter Anna pourrait bien vous mettre la puce à l'oreille et vous faire dire « Ah, mais je connais, en fait !» Et cet air-là, il se situe dans le deuxième acte de l'opéra. Le père de Lakmé, qui s'appelle Nilakanta, a appris que Lakmé est amoureuse de Gérald, un officier britannique. Donc, bien sûr, il n'est pas d'accord. Et déguisé en mendiant, le père demande à sa fille de chanter ce fameux air des clochettes pour attirer justement Gérald. Voilà, je ne vous raconte pas la fin de l'histoire, je vous laisse écouter Anna Escudero, soprano, et Annalisa Orlando, sa pianiste, dans l'air des clochettes.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Merci Anna et Annalisa pour cet extrait du célébrissime air des clochettes de l'Acmé, air très difficile techniquement puisqu'effectivement, comme tu nous l'indiquais, tu es une soprano qui monte très haut dans les aigus, oui. N'est-ce pas? Alors, nous allons continuer notre petit entretien ce matin avec quelques petites questions encore avant d'écouter le troisième extrait que tu as choisi de nous faire entendre. Comment imaginerais-tu ta vie d'artiste ou comment l'imagines-tu aujourd'hui, ta vie d'artiste?
Je pense que le plus important pour moi, quand je imagine ma vie d'artiste, c'est de rester un peu fidèle au bonheur que ça me donne de chanter. C'est-à-dire que je veux vraiment faire ce métier parce que ça me fait du bien, moi, de le pratiquer et de le partager avec les autres. C'est-à-dire qu'on peut très vite se perdre, sinon, dans des questions de... Surtout dans le chant lyrique, mais je pense que dans d'autres... comment dire? Dans d'autres rames de la musique aussi, dans des questions de concurrence, de... Enfin, c'est quand même un chemin qui est difficile, qui a beaucoup de contraintes. Et pour moi, ce qui est important, c'est de garder toujours cette idée que je fais ça parce que j'aime faire ça et que ça me porte un peu à chaque étape.
D'accord. Donc, le plaisir de chanter, tu entretiens ta petite flamme.
C'est ça.
C'est magnifique. Et tu penses, est-ce que tu n'es pas effrayée par l'aspect nomade quand même de ce métier? Parce qu'un chanteur lyrique, une chanteuse lyrique... est amené à se déplacer cinq semaines quelque part pour faire, par exemple, la production de l'Acmé, ou bien d'aller chanter la méchante Reine de la Nuit dans un autre théâtre. Et chaque fois, c'est une période d'environ 5 semaines de répétition, plus les spectacles, loin de sa famille, de ses amis. Est-ce que tu n'as pas un peu peur de te sentir éloignée de toutes ces personnes qui te sont chères?
Bah, je pense que si ça me faisait peur, je n'aurais jamais quitté l'Uruguay.
Eh oui, donc, très bonne réponse.
En vrai, ça m'a fait moins peur. Non, moi, je savais que quand j'ai quitté mon pays, je savais que déjà que c'est un métier pour lequel il faut bouger, en fait. Il faut aller là où l'opportunité se présente. Et donc, oui, c'est un petit challenge, sans doute, Mais ça, c'est chouette côté aussi. C'est très intéressant d'avoir une vie aussi où on bouge, on est tout le temps en mouvement. C'est sympa.
Oui, finalement, c'est l'occasion de rencontrer d'autres personnes. Et puis, toute façon, les êtres qu'on aime, même si on en est éloigné, eh bien, voilà, on les a avec nous un petit peu, toujours.
C'est ça.
Voilà, mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais parfois, c'est vrai qu'il peut y avoir des petits moments où on se sent un peu loin. La géographie, quand même, quand elle nous éloigne,
Oui, sans doute, surtout dans mon cas, où il y a quand même 10 000 kilomètres.
Oui, effectivement, c'est un petit peu éloigné de Colmar, oui, on est d'accord.
Mais bon.
Bon, bah, ça va. Bon, bah, c'est bien. Mais tu es forte et tu es taillée pour ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que tu veux bien nous présenter le troisième extrait que tu as choisi de nous faire entendre, chère Anna?
Oui, j'ai choisi une chanson qui est interprétée par Cécile McLaurin Salvante, qui est une chanteuse de jazz franco-américaine, qui est née à Haïti, je pense, et qui interprète donc dans cet extrait une chanson de Kate Bush qui est une autre de mes grandes amours musicales à côté de Joni Mitchell. Et donc, elle interprète la chanson Wuthering Heights, qui est une très très belle chanson de Kate Bush, pareil, qui est quand même très 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 originale, je pense, musicalement et puis de par son texte. Et voilà, cette interprétation, elle me touche particulièrement, pareil, à ses côtés. Elle commence à cappella et puis il y a des instruments qui arrivent. Donc c'est vraiment à nouveau le puissance de la voix nue qui m'a attirée dans cette interprétation.
Eh bien, nous écoutons.
I have come all night so long. Wuthering Heights, Heathcliff. It's me, I'm Kathy, I've come home, I'm so cold. Let me in your window, Heathcliff. It's me, I'm Kathy, I've come home, I'm so cold. Let me in your window, Heathcliff. It's me, I'm Kathy, I've come home, I'm so cold. Let me in your window, Heathcliff. It's me, I'm Kathy, I've come home, I'm so cold. Let me in your window.
La voix magique de Cécile McLaurin-Salvant, accompagnée à la guitare électrique et au synthétiseur par Paul Sikivi. J'espère que c'est bien comme ça qu'on prononce le nom de ce charmant monsieur.
Ah, j'espère aussi. Je voulais juste dire, oui, par rapport aux extraits, je réfléchis à plein maintenant, mais juste dernièrement, j'ai écouté quand même beaucoup de femmes, autrices, interprètes. Et donc, je pense maintenant, donc aujourd'hui, on a écouté Joni Mitchell, Cécile McLaurin-Salvant, Kate Bush, mais il y a aussi Juana Molina, que je vous invite à découvrir, une artiste argentine géniale, ou je sais pas, Susan Sundfør, norvégienne, juste pour dire que dernièrement, il y a beaucoup de femmes qui ont... j'ai été très inspirée par ces femmes autrices et interprètes.
Merci Anna. Arrive maintenant le moment du portrait chinois, tant attendu par chacun de mes invités, n'est-ce pas ? Alors, commençons par la première question. Si tu étais un animal imaginaire, qui serais-tu ?
Un dragon.
Oh, mon Dieu, ça fait peur. Mon Dieu. Si tu étais un paysage ?
La mer, la plage, la mer uruguayenne.
Si tu étais un moment de la journée ?
Le coucher du soleil.
Et si tu étais un artiste, une artiste ?
Joni Mitchell.
Oh, bah oui, pas mal. Si tu étais un type d'art ?
Ouais, la musique, quand même. C'est dommage, c'est le mien, mais c'est comme ça.
Ah bah, dommage, c'est pas trop mal. Si tu étais un musée ?
Le musée d'Orsay.
Ah oui. Et si tu étais un trait de caractère ?
La joie.
Eh bien oui, j'aurais pas dit mieux. N'est-ce pas, Annalisa ? C'est oui. Bien ça. Tout à fait. Eh bien, je n'ai plus qu'à vous remercier, à te remercier, Anna, pour ce très agréable moment passé avec toi. Merci à Annalisa Orlando, qui était ici dans le studio, très sage, derrière son piano, et qui t'a accompagnée dans l'air des clochettes. Merci à Francis, qui est derrière la vitre, toujours attentif et qui nous fait des super émissions. Chères auditrices, chers auditeurs, écoutez, à bientôt. Portez-vous bien, chantez, dansez, soyez heureux et prenez soin de vous. Au revoir.
Les rendez-vous,
the meeting.
Les rendez-vous,
the meeting of the opera studio.
Ontmoeten aan het opera studio.
Les rendez-vous,
the meeting.
Les rendez-vous,
l'appuntamento dell'opera studio.
Try to remember the kind of September when life was slow.
Ça vient ça.
Les lents et fous,
les sans les roues,
les.
C'est dans le.
Les
lents,
lents des roues,
le.
En espagnol.
De l'opéra.
Ah, pas bienvenue.
Studio.
The Opera Studio's Rendezvous.
Los Encuentros de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Poznanie Opera Studio.
Marhaba, le rendez-vous de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.